Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De lui, Henri Langlois disait qu'il était notre permanent émerveillement. En 1985, Paul Grimaud se racontait dans une série de 5 entretiens. Après avoir, dans les deux premiers volets, expliqué le chemin qui l'avait conduit à se consacrer au dessin animé et l'aventure au long cours que fut la création du Roi et l'Oiseau, il évoquait dans la suite de ses émissions les rencontres qui jalonnèrent son parcours, celles de Jacques Prévert bien sûr, mais aussi de Robert Desnos ou de Jean Renoir, et disait sa façon de concevoir un métier dont il défendait coûte que coûte la dimension artisanale. La gouaille, le sens du bon mot et l'humour de Grimaud ne sont pas pour rien dans le plaisir que l'on prend à l'écouter, écoute que l'on pourra prolonger par le visionnage du Roi et l'Oiseau, désormais disponible dans une belle version restaurée, ou encore par la découverte de 8 courts-métrages du cinéaste, regroupés en 2019 dans un DVD intitulé « Le monde animé de Grimaud ». 8 films qu'il évoquait dans le premier de ses 3 entretiens menés par Jean-Pierre Pagliano et diffusés pour la première fois sur France Culture en septembre et en octobre 1985.
Jacques Prévert, un jour, on était ensemble en train de travailler sur Le Roi et l'Oiseau, puis un gars qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment comme travail dans le cinéma ?» Il dit « Je travaille sur un dessin animé avec Paul Grimaud. »« Ah, et peut-on savoir un peu, racontez-nous ce que c'est. » Il dit « Comment voulez-vous que je vous raconte un dessin animé ?» Un dessin animé, c'est comme une orange. Une orange, ça ne se raconte pas. Ça s'épluche et puis ça se mange. Et bien un dessin animé, c'est pareil. Voilà. Formidable.
Entretien avec Paul Grimaud par Jean-Pierre Pagliano. Troisième bobine, la fin et les moyens.
Pour les besoins d'un film publicitaire au début des années 30, vous avez fait marcher une table, image par image. C'était votre découverte du cinéma d'animation, votre toute première expérience. Mais vous n'avez pas poursuivi dans cette voie de l'animation d'objets. Vous vous êtes tourné vers le dessin animé.
C'est à ce moment-là qu'intervient Pierre Prévert dans l'histoire, dans mon histoire, j'entends, et dans mon histoire et dans l'histoire du dessin animé, disons un peu, dans la mesure où j'ai apporté un petit quelque chose. Un jour, Pierre Prévert me dit, ça se passait devant le Flore, à côté du Flore, à gauche du Flore, je me rappelle très bien l'endroit, on se baladait comme ça, et puis il était au courant de ces trucs qu'on faisait. Et Pierrot me dit, tu aimes le cinéma, enfin tu travailles, mais en plus tu sais dessiner, tu devrais essayer de faire du dessin animé. Pas un dessin animé, mais de faire du dessin animé, tu devrais essayer. Bon, alors... Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd, bien sûr. Je n'ai pas fait immédiatement, je ne connaissais rien du tout à tout ça. J'ai essayé, avec ma vieille caméra Hermann, j'ai commencé à faire des essais chez moi. J'ai même fait un petit truc avec François Hugo en fil de fer animé, comme ça. Tout ça pour regarder, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais c'était suffisant quand même pour me coller le virus. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire un scénario, et puis René Zuber, que j'avais connu chez D'Amour, m'a présenté un jour André Saru. Et André Saru a cru au truc, enfin comme ça, et ça l'intéressait, quoi. On s'est associé, on a monté Les Gémeaux. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers dessins animés dans le truc.
Et c'était en quelle année, ça?
C'était en 36. En 36. Alors j'avais commencé par Monsieur Pipe. Monsieur Pipe, c'était mon film école. C'était notre bateau école. C'est là-dessus que j'ai appris vraiment vraiment les grands rudiments du métier, et puis en même temps que les premiers animateurs de l'équipe se sont formés, ont travaillé, quoi. C'est un film qui n'a jamais été terminé, qui pouvait difficilement être terminé. Enfin, il faut aussi regarder ces choses avec calme, avec le recul. Si on... Je sais pas, on pouvait pas faire un film comme ça, 3 ou 4, c'était pas possible. Et puis, je savais même pas la longueur que ça faisait. Et puis, c'était une aventure, c'était un film école, quoi, c'est ça. C'était de l'expérimentation. Seulement, ça a été suffisant quand même pour on avait quelque chose à montrer. Et c'était suffisant pour qu'on commence à décrocher un ou deux petits trucs de publicité en dessin animé. Les gens, d'ailleurs, ils étaient pas rassurés, les clients qu'on avait. Ils l'ont dit longtemps après, ils disaient « Oh, j'étais pas rassuré, je suis allé plat. » Bon, le film s'est fait, ça nous a permis aussi, ça, de décrocher enfin un truc plus important qui était le film pour l'exposition de 37, qui a été fait aussi un film expérimental. C'est la compagnie d'électricité de l'époque, la CPDE, qui nous avait demandé qui finançait ce film. C'était pour faire un dessin animé en utilisant l'objectif qu'avait inventé le professeur Chrétien. C'était un anamorphoseur qui s'appelait l'hypergonard et qui était dans le fond, qui était l'ancêtre du cinémascope. On a fait le film qui s'appelait Phénomènes électriques, qui était projeté à l'exposition sur un écran de 60 mètres de large. Et ce film avait complètement disparu. Or, je sais que le négatif maintenant, mais je le sais depuis très peu de temps, que le négatif existe encore. Il est en Angleterre, mais il n'y a plus le négatif. Sur le son, on ne sait pas ce qui est devenu. Or, c'est dommage parce que Jean Vienner avait fait une très très jolie musique pour ça. Et en partie écrite et en partie improvisée, c'est-à-dire le genre de truc qu'on ne peut pas refaire. Et puis alors, vous savez, quand on fait de la reconstitution... C'est aussi difficile parce que c'est comme ressusciter un ami. Enfin bon, si c'est pour ressusciter un ami, on le ferait tout le temps, on passerait sa vie à ça. Mais si c'est pour ressusciter le squelette de quelqu'un, c'est autre chose, quoi. Hein? Vous voyez? À ce moment-là, il vaut mieux se tenir tranquille et garder des souvenirs, c'est plus net. Hein? Ça ressemble davantage, quoi. C'est plus ressemblant.
Nous sommes en 1937 et vous avez déjà fait 2 dessins animés. Deux films d'animation. Qu'est-ce que vous aviez, je dirais pas comme modèle, ni même comme exemple, mais qu'est-ce que vous connaissiez de l'animation? Qu'est-ce qui se faisait à l'époque?
Eh bien, je connaissais pas grand-chose, à vrai dire. Je connaissais pas grand-chose parce que je voyais les films au cinéma, quoi. C'était des films de... Il y avait les films de Disney. J'avais une préférence pour les trucs de Max Fleischer, là, les Popeye. J'aimais beaucoup Popeye. Et La Somnambule, Popeye aux eaux, enfin il y avait toute une série de trucs qui étaient, moi je trouvais ça formidable. C'était, il y avait un côté moins puéril que dans certains des Disney qu'on voyait, qui faisaient davantage boulot de série. Quand on voyait un Disney, on avait davantage l'impression que c'était un film qui faisait partie d'une série. Quand on voyait un film avec Popeye, on avait l'impression que c'était un film pour le film. Vous voyez, c'est clair. Et on voyait de temps en temps des films anciens. Je connaissais les Félix Le Chat parce que je les avais vus surtout sur des... J'avais un cousin qui avait un petit pâté baby, alors il se procurait des petites machines en tout petit format, enfin des petites bobines. Alors les Félix Le Chat, on en voyait aussi au cinéma. Et puis au cinéma, on voyait aussi Coco le Clown aussi, de Fléchet, on voyait tous ces trucs-là.
Enfin, Betty Boop aussi.
Betty Boop aussi. J'en reviens en arrière, j'en reviens au moment où on était chez D'Amour. Parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas du tout faire des dessins animés. Hein? Pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on avait envie, ce que je cherchais à faire. Je me disais un jour, peut-être que j'arriverai à faire des films comiques. C'était vraiment le truc que j'avais envie de faire. Peut-être parce que j'avais été marqué par ces petits bouts de films que j'avais décrochés comme ça. Peut-être parce que ça a été ma première pâture, ma première nourriture au cinéma, dans le quartier, dans le 13e où j'étais arrivé à Paris. C'était l'époque où j'avais vu des films avec j'avais Max Linder, Rigadin, et puis alors tous les premiers Maxénètes, enfin tous les Maxénètes qu'on voyait comme ça, et puis aussi ce que je trouvais admirable, alors c'était les films avec Buster Keaton, enfin qu'on appelait à ce moment-là Malek. Puis après, c'était Frigo. Ils l'ont appelé Frigo après. Je sais pas, puis il va y avoir un gars qui s'appelait Malek qui était pas content, ou je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça aux États-Unis. Le gars allait râler parce qu'on se servait de son nom. Et il y a eu justement, c'était intéressant parce que, je veux dire, dans le sens où il y a eu déjà un premier truc particulier qui s'est produit pour moi, c'est que je ne partais pas du dessin en me disant je vais faire des dessins et je vais les faire bouger, je vais les animer. Mais j'étais un gars qui avait envie de travailler pour le spectacle. Je partais du spectacle, d'une vision du spectacle, d'une envie de faire du spectacle. Et en me disant, bon, bah, je vais me servir du dessin en même temps pour faire des dessins animés. Je vais me servir de dessin au lieu de me servir d'acteur. Je vais dessiner des trucs. Vous voyez, c'est pas du tout le même processus, le même cheminement. Alors que j'ai rencontré des tas de gens dans la profession depuis qui sont des gars qui ont du talent aussi, enfin je veux dire aussi, mais des gars qui ont quelque chose à dire, mais qui sont partis du dessin, qui sont partis d'un côté artistique, d'un côté esthétique, et en même temps rajoutant de l'animation au dessin. Vous voyez, ils ont donné une corde de plus au dessin. Ils l'ont élargi en lui donnant une dimension, en lui donnant une dimension dans le temps. Et moi, j'ai toujours regardé ça comme une façon de raconter quelque chose, de communiquer quelque chose, de dire quelque chose, de faire du spectacle, de faire d'émouvoir les gens ou de les faire marrer. Ouais, ce côté comme ça, plus saltimbanque, enfin, qu'artiste avec une corde de plus, une deuxième corde à son arc, qui ne va pas être facile non plus à se servir quand c'est comme ça.
Et oui. Vous avez commencé à écrire des scénarios pour des acteurs ?
Ça me tentait pendant longtemps, ça me tentait de faire des choses comme ça. J'avais même des choses que j'avais commencé à esquisser, enfin à noter pour faire des choses pour jouer avec des copains, enfin pour faire des petits films comiques. Mais je suis parti là-dessus, je l'ai pas regretté d'ailleurs. J'ai pas regretté, je suis pas frustré du tout. Enfin, j'ai certainement surtout à un moment donné, à partir du moment où j'ai senti que je ne pourrais pas faire, parce que c'était pas mon tempérament, de faire des dessins animés comme les faisaient les Américains, parce qu'ils faisaient bien leurs films tels que je les aimais, parce qu'ils étaient Américains eux-mêmes, mais que si moi j'avais quelque chose, fallait que je prenne quelque chose que je trouve le moyen avec lequel je me sentais le plus à l'aise. C'est-à-dire pour moi, bon, c'était un autre truc. Petit à petit, j'ai senti que c'était quelque chose que je devais prendre d'une façon différente, vous voyez.
Il y a une chose qui est frappante quand on examine l'ensemble de votre œuvre, c'est que vous n'avez pas cherché techniquement dans des voies différentes. Enfin, il n'y a pas chez vous le côté expérimentateur tous azimuts qu'on trouve chez Alexeïev ou chez d'autres de vos collègues.
Non, mais probablement parce que je me désintéresse pas de ces questions. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de dire que de communiquer, que je racontais quelque chose. Hein. Le moyen. Bon, ben on se démerde avec les moyens du bord, quoi. Quand il n'y a pas grand-chose à bouffer à bord, ben on se démerde avec le peu qu'il y a. Mais ça a été ça pour certains de mes films. Il y a des films sur lesquels que j'ai fait vraiment avec des moyens très dérisoires. Et pour lesquels, par exemple, je n'ai pas d'ailleurs trouvé le financement que je souhaitais trouver pour ça. Je prends comme exemple le Diamant ou le Chien Mélomane. Il est évident que si je veux raconter, par exemple, une histoire d'un diamant qui est échangé contre des parapluies. Bon, ça, c'est un sujet, c'est pour les gens, c'est pas un sujet de dessin animé. Bon. Si je veux raconter l'histoire du plus gros diamant du monde échangé contre 4 parapluies et l'histoire d'un diabolique fabricant d'engins de sécurité ou de dissuasion, d'un marchand de canons, par exemple, tout ça, c'est de la pâture. On dit, c'est pas du dessin animé, quoi. Ça peut pas intéresser les enfants. Or, les enfants se marrent bien avec ces trucs-là. Et puis, en plus, ils en parlent entre eux. Ils ont vu le truc, et puis ils disent, gars, il est quand même, c'est un peu vache avec son violon à ultrasons, puis qui casse tout à distance. Enfin, hein. Et puis l'autre qui fauche les diamants, puis qui donne des parapluies à la place, quand même, c'est pas juste. Ils ont un sentiment d'injustice, et le gars, c'est très sensible à l'injustice. Alors, je trouve que c'est bon, quoi. Ça sème la bonne graine, quoi, tout ça. Alors, je veux dire que par là, ces deux films ont été faits quand même, même parce qu'ils n'ont pas été du tout soutenus. J'ai pas eu ni de prime à la qualité, ni quoi que ce soit là-dessus, mais je m'en fous. Le principal, c'était que ces films soient faits. J'ai toujours cherché à faire des films que j'avais plaisir à faire. Et tous les films que j'ai faits, en fin de compte, ce sont des films que j'ai eu plaisir à faire et que je suis content d'avoir fait. Il me reste, pour que ce qui aurait été bien, évidemment, c'est que je puisse avoir la chance de trouver les moyens de réaliser tous les films que j'aurais voulu faire. Mais ça s'est pas trouvé, c'est un autre point de vue. Bon, je reviens donc au départ de la question telle que vous la posiez tout à l'heure. Il est certain qu'il y a des choses, il y a des films pour lesquels je n'ai pas... J'ai attaché un soin très très relatif à la forme tout à fait, parce que il me semblait que il était plus intéressant de voir ce que je pouvais raconter avec les moyens du bord. C'est toujours ça le truc que je regardais. S'il y a des moyens du bord qui me permettent de faire un truc, ça va. Mais par exemple, la recherche d'un vocabulaire continuel, d'une nouvelle technique, d'un nouvel engin, comme ça se pose, il y a des gens qui sont fascinés par ça. Il y a des gens qui sont, par exemple, quand ils vous parlent d'un ordinateur, quand ils vous parlent d'un truc avec une multiplane, quand ils vous parlent d'un truc comme ça, ils sont, pour eux, c'est le fin du fin. Or, ça, moi, c'est un truc qui ne me tente pas, parce que l'outil, je ne suis pas fabricant d'outils, je me sers des outils simples que j'ai. Je ne vais pas, par exemple, m'endetter, demander, chercher du pognon uniquement pour faire fonctionner des appareils les plus sophistiqués du monde. S'ils ne me servent à rien, ça me sert, c'est pas la peine. Par exemple, le coût d'une caméra à plan multiple, la multiplane, quoi, puisqu'on l'appelle par son nom. Ça m'intéresse pas tellement, étant donné que si vous avez en tête, vous l'avez vu, Le Roi et l'Oiseau, il y a des plans où on a le vertige. Enfin, il y a des moments où on est quand même, c'est vertigineux, on est à l'espace. Mais cet espace, il est peint et il est à plat complètement.
Effectivement, on a un effet de vertige très souvent dans Le Roi et l'Oiseau. Vous utilisez la profondeur de champ, vous utilisez, mais par des moyens de peintre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je peins l'espace, je peins le vide, je peins la profondeur. Sans artifice, je ne... Et puis alors, je reviens aussi, encore une fois, à ce truc d'outils. Des gens sont intéressés, sont fascinés par la recherche d'un nouveau moyen d'exprimer quelque chose. Et moi, je suis fasciné par la nécessité d'exprimer quelque chose. Et le moyen, si je n'ai pas de moyen, je m'en fous. J'aurai toujours assez de fric pour prendre assez de moyens, des disponibilités pour me procurer un morceau de craie ou un bout de plâtre et puis dessiner ce que j'ai à raconter sur un mur ou sur un trottoir. Ou même si je ne peux pas, à ce moment-là que je le raconte. Je raconterai oralement. Je peux faire le tour du monde et raconter oralement des choses en échange qu'un gars me donne une chopine de pinard et puis un morceau de pain, puis un bout de fromage, vous comprenez? Je ne veux pas être esclave d'un truc. Quand je vois, par exemple, il y a des gens qui sont obligés de faire la queue pour retenir leur place, pour pouvoir disposer d'une machine qui vaut des centaines de millions, mais c'est dingue, c'est pas possible. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose qui me... On a l'impression que c'est un moyen d'expression qui... progressivement devient un moyen d'oppression qui fait qu'on est on est amené à être dépendant d'une machine qui est lourde et qui est pesante et qui nous paralyse dans le fond. Et alors faut demander l'autorisation de ceci, il faut convaincre des gens, comme quand il faut trouver du pognon, il faut raconter des histoires, vous savez, il faut les raconter. Alors maintenant les gens trouvent du pognon parce qu'ils disent on va utiliser des techniques nouvelles, ça suffit pour qu'on leur donne du fric. Alors merde, je raconte une histoire et je veux qu'on me donne du fric pour pouvoir la raconter parce que il faut que je paye les gens, faut qu'ils bouffent quand même, faut que je paye la pellicule, faut que je paye tout ça et puis que je paye les charges. Faut pas oublier que la France c'est le pays où on a le plus de charges de tous les pays du monde, je crois.
Oui. Si on en revient à vos débuts, justement à propos de la technique, je suppose que quand on est confronté à un nouveau langage, comme celui de l'image par image, on cherche, enfin, est-ce que vous aviez un tuteur, un moniteur, un initiateur, ou est-ce que vous avez découvert par vous-même ce langage ?
Je suis comme tout le monde, quoique beaucoup de gens s'en cachent. Je reçois des influences, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Celles qui sont moins bonnes, je les laisse de côté, je ne veux pas les garder chez moi.
Non, mais tout pratiquement, tout simplement, je veux dire, est-ce que vous avez fabriqué votre premier appareil de prise de vue, image par image? Enfin, pas la caméra, mais enfin le dispositif.
Ma première caméra, c'est moi qui l'ai fabriquée. Oui. Ma toute première caméra, je l'ai fabriquée alors que je travaillais encore au Bon Marché, avant de faire mon service militaire. J'avais vu dans la nature ou dans la science et la vie, et je crois dans les deux, il y avait une caméra qui avait été inventée par un gars qui s'appelait Bourdereau, qui s'appelait le Cinex. Et c'était un petit appareil tout simple, il montrait les plans de sa caméra, il n'avait pas peur de l'espionnage industriel. D'ailleurs, j'ai rencontré par la suite le père Bourdereau. Je vais raconter ça, il était très, très touché, c'est drôle. Hein.
Sûrement, mais oui. On comprend. Hein.
Et j'avais vu ce truc, et partant de ça, je me suis fabriqué une caméra. Mais alors, elle était... Bon. Et alors, cette caméra, moi, je l'avais fabriquée comme ça, de toutes pièces, et je tournais, mais il fallait que je tourne à 4 ou 5 images secondes. Je ne pouvais pas tourner à 16 images, c'était parce qu'autrefois, on tournait à 16 images du temps du muet, puis à 24 après, du temps du sonore. C'est le coup des deux tours de manivelle par seconde. Vous vous souvenez de ce truc-là? Deux tours de manivelle du temps du muet, trois tours de manivelle, parce qu'à chaque tour de manivelle, on faisait 8 images. Moi, je faisais 4 ou 5 images par seconde. À ce moment-là, la caméra arrivait à tourner à peu près. Et par la suite, je me suis acheté cette Hermann qui était très bien, mais... Il a fallu, pour que j'aie vraiment un matériel très très sophistiqué, il a fallu que j'attende Le Roi et l'Oiseau, c'est-à-dire 1977 ou 18, pour acquérir vraiment une caméra qui soit parfaite, qui soit vraiment très bien. Et puis, bon, maintenant, comme je ne fous plus rien depuis Le Roi et l'Oiseau, il a fallu lâcher du lest, j'ai bazardé aussi cette caméra, je me retrouve exactement avec le même matériel qu'avant. Mais enfin, c'est pas grave, ça c'est pas fait pour me perturber, parce que je me sens peut-être plus à l'aise aussi avec un matériel plus rustique, comme ça.
On a été resté à Phénomènes électriques, qui était un dessin animé en Technicolor.
Alors, on a fait, après Phénomènes électriques, on a eu un film pour les lampes Mazda, c'était le Messager de la Lumière. J'ai malheureusement pas de copie de ce film, mais c'était. J'ai gardé le souvenir d'un bon film. Jean Renoir aimait beaucoup ce film. Il l'avait vu une fois, il m'avait dit formidable ton truc. Mais il dit comment tu as fait? Il n'y a qu'un plan là-dedans. J'ai dit oui, il n'y a qu'un plan. Oui, c'est bon. Jean Renoir, je l'avais vu avant dans Le Crime de Monsieur Lange. J'avais joué aussi un peu. J'avais joué, enfin, faut pas rajouter de trop. On me voyait dans Le Crime de Monsieur Lange. On me voyait un peu partout. Il aimait bien avoir des têtes rassurantes comme ça.
Un ouvrier typo.
Oui, oui. Il y avait des gars qui travaillaient déjà avec moi, puisque c'était au moment où on commençait à faire les Gémeaux, quoi. Mmh. Il y avait Jacques Asseau, qui était un des premiers à travailler avec moi dans mon équipe, qui avait travaillé justement sur les films dont je parlais tout à l'heure. Et qui a joué aussi dans Le Crime de Monsieur Lange. Oui. Et puis, on en était à ce moment-là...
Messager de la Lumière.
Messager de la Lumière. Et alors, le premier court-métrage, disons libre, à peu près, quoi, qui était Gauche en vol, Gauche et les oiseaux.
En 1939.
39, c'est ça. Et ce film a été interrompu par la guerre. Et quelques membres de l'équipe qui n'ont pas été... Enfin, les filles avaient laissé de côté, avaient conservé, avaient mis ça dans les caves, des dessins et des trucs. Puis finalement, avec l'humidité, et puis le temps de rester habillé en militaire, un peu, se promener un peu partout à la surface du globe, ça a pris 2 ans à peu près, 1 an et demi. Et puis j'ai récupéré ce que j'ai pu en 41. Et ce que j'ai pu, il y avait des choses qui étaient très esquintées, très abîmées, que j'étais obligé de foutre en l'air. Alors, dans ce que j'ai pu conserver, qui était encore valable, j'ai regardé, j'ai passé tout ça en revue, et je me suis dit, maintenant on va réécrire un scénario pour essayer de réutiliser les miettes, quoi, les restes. Et alors, on a refait une nouvelle mouture, et c'est devenu Les Passagers de la Grande Ourse.
Voilà. Avec une musique de Jean Vienner.
Musique de Jean Vienner, hein. Et en même temps, on a fait un autre film qui s'appelait Le Marchand de Notes, avec Jean Ranche. Alors ce film qui avait disparu, on en a retrouvé des bouts, et en ce moment c'est aux archives du film où ils sont en train de se farcir ce boulot. C'est vraiment, ils font ça très bien. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand on voit, par exemple, Le Marchand de Notes, alors qu'était un film où j'avais soigné la couleur, finalement c'est dégueulasse quand on voit parce qu'on a récupéré quelques bouts des trucs en noir et blanc qu'on a récupéré. Alors c'est de la... c'est de la très mauvaise qualité des très vieux films de Félix Le Chat, vous voyez, qui ont été contretypés d'après des contretypes de contretypes. Hein. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un mauvais truc en noir et blanc, mais c'est tout ce qu'on a pu récupérer. Et c'est ce truc-là qu'on essaie de ressusciter. Quoi. Alors, il y a Les Passagers de la Grande Ourse, aussi. Et puis, après ça, avec Orange, j'ai refait alors les deux premiers films qui vraiment... Parce que j'ai eu la sensation tout de même, j'ai aussi... Vous savez, on monte des marches, il y a des escalades successives comme ça, là-dedans, dans ce métier. À ce moment-là, je savais qu'on savait animer, je commençais à maîtriser un peu le truc, mais il y avait quelque chose à soigner, à fignoler du côté scénario. Alors, le scénario, j'ai retrouvé mon Jean Orange, et puis on a fait ensemble l'épouvantail et le voleur de paratonnerre. Alors là, si vous voulez, on avait maintenant la tenue de route. Hein. On avait la tenue de croisière. Après ça, on a fait avec Lénard, j'ai fait La Flûte Magique. Et puis, ça a été tout de suite après, parce que ça correspondait à la guerre venait de se terminer, que j'ai retrouvé Jacques Prévert et qu'on a fait notre premier travail ensemble, qui était Le Petit Soldat, qui est, à mon avis, le court-métrage que j'ai fait, c'est le film que je préfère. Enfin, on a toujours des préférences pour... ça ne veut pas dire que je suis très attaché, comme je disais tout à l'heure, à tous mes autres films, quoi, et puis ils représentent tellement de choses pour moi. Puis en plus, je suis content qu'ils existent, je suis content qu'ils soient faits. Mais Le Petit Soldat, c'était un truc aussi. Et c'était le dernier court-métrage avant l'histoire de la bergère.
Et maintenant que Le Roi et l'Oiseau se promènent à peu près partout dans le monde, ça ne vous démange pas de faire un court-métrage, de revenir à vos premières amours ?
Le court-métrage est un truc qui peut être fait. Et justement, c'est un peu plus qu'un projet, parce que j'ai déjà commencé à faire des dessins pour ça, pour un très court-métrage. De quelques minutes et qui raconte une petite histoire que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que si je la raconte bien, à ce moment-là, on dira « Ah ben, ça, c'était... Oh, j'imaginais ça mieux que ça, quoi. Hein » Si je la raconte mal, ça ne citera personne. Non, faut le voir pour le croire. C'est une histoire très courte dans laquelle je joue aussi, mais pas dessiné. Je joue en tant que spectateur de ce petit spectacle. C'est un petit spectacle de dessin animé, très court. Très court, mais parce que ça me démangeait aussi. C'est emmerdant de... Alors ça, c'est un truc que je peux tourner sur ma vieille brouette, là, sur ma vieille caméra. J'ai pas besoin d'avoir... Ce film est un film qui n'est pas... que je ne sortirai pas comme court-métrage tout seul, mais qui est incorporé dans un montage complet, remanié, rebêché, regriffé, retravaillé, recompacté, d'un certain nombre de films que j'ai fait, et même d'extraits que j'ai fait en les reliant, en les bâtissant, en les recousant ensemble, en les reprisant, quoi, hein. De façon que ça ne fasse pas simplement un truc avec le mot fin, qui vient tout de suite, juste avant le générique du suivant, etc., etc., c'est-à-dire un espèce de spectacle de court-métrage, qui est une formule difficile, parce que c'est pas fait pour ça, le court-métrage non plus. Je peux pas l'envisager, moi, personnellement. Mais par contre, reprendre des choses, les morceaux qui m'intéressent le plus dans ce que j'ai fait, dans n'importe quelle chose que j'ai pu faire, intervenir en même temps et tout ça, et redonner une espèce de vigueur à tout ce truc-là pour en faire vraiment mon histoire, dans le fond. C'est mon histoire, c'est mon flirt avec l'animation, si vous voulez. Hein, c'est un peu ça. Alors là, ce truc intervient parce que c'est bien que je ne reste pas uniquement sur des choses passées. Il faut aussi que je puisse montrer comment je signe aujourd'hui, quoi. C'est important, ça.
C'était le troisième entretien de Jean-Pierre Pagliano avec Paul Grimaud. Mixage, Michel Mirou. Réalisation, Annie Wojciechowska.
Tout de suite, quatrième partie de cet entretien avec Paul Grimaud, diffusé pour la première fois le 26 septembre
1985. L'état civil, ça se trompe aussi. Et les papiers d'identité, c'est marrant. Moi, sur mon livret militaire, j'ai passé, enfin, c'est longtemps qu'il est marqué mon identité. Eh bien, il y a des choses très étranges. Taille, par exemple. Vous me donnez quelle taille, par exemple, vous qui êtes en face de moi?
Je sais que c'est 1m80.
Bon, ben, j'ai 1m... Attendez, 1m15. Bon, je ne sais pas où ils ont été chercher ça.
Ils vous ont confondu avec Piral.
Oui, je ne sais pas, peut-être. Enfin, je n'ai pas voulu rectifier, parce que je me suis dit, je vais me faire engueuler. Si je rectifie, ça va être... Hein.
Cinq entretiens avec Paul Grimaud par Jean-Pierre Pagliano. Quatrième bobine, galerie de portraits.
Paul Grimaud, il y a des hommes de salon. Vous, vous seriez plutôt un homme de bistrot, dans la mesure où les bistrots sont un peu l'équivalent contemporain des salons.
Oui, mais ça va faire plaisir à des tas de gens qui m'ont tellement attaqué là-dessus en disant que j'étais plus souvent au bistrot qu'au boulot. Enfin, en réalité, on en rajoute toujours un petit peu. Les gens aiment bien construire des légendes autour de tout le monde.
Et puis, on travaille aussi dans les bistrots, on y
ah,
fait
ben
des
oui,
rencontres.
Oui, mais je comprends. Puis, vous savez, c'était... Bon, puis c'était l'époque aussi, quoi. À ce moment-là, les gens n'avaient pas pris l'habitude d'avoir une bouteille de whisky chez eux. On allait au bistrot, on n'avait pas souvent le téléphone, mais on ne servait pas beaucoup du téléphone, et on allait au bistrot parce qu'on savait qu'à telle heure et à tel endroit, on était sûr de rencontrer un tel ou un tel. Enfin, c'était plus fidèle que les rendez-vous, quoi. Comme... Non, je n'ai pas passé ma vie dans les bistrots, quand même, sans ça, je ne serais probablement pas là à cette heure-ci, quoi. Hein, je viens de fêter mes 80 ans, et j'espère bien continuer encore un petit peu, quoi. J'ai connu effectivement des tas de gens, mais ce n'est pas dans les bistrots que je les ai connus au départ. Après, bien sûr, quand je rencontrais Jean Range, que j'avais perdu de vue pendant un moment, je le retrouvais au De Magot ou au Flore, et puis il était avec quelqu'un, il me présentait, puis ça embrayait, c'était comme ça, mais enfin, c'est comme ça pour tout le monde. J'ai surtout connu des gens dans tous les boulots où j'ai travaillé, dans toutes les maisons où j'ai travaillé. Ça commençait quand j'étais au Bon Marché, comme je vous l'expliquais, et puis aussi dans le Faubourg Saint-Antoine. Au service militaire, j'ai pas fait beaucoup de... Non, ça m'a pas laissé grand-chose. Il y a juste un copain que j'ai connu comme ça, mais enfin, ça s'est passé après. C'est dans le boulot, surtout, que ça a commencé. Quoi. Quand, à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans le cinéma, c'était par Jean Orange que j'ai connu. J'ai connu d'abord... Alors bien sûr, Jacques Prévert, lui, je l'avais connu. Un jour, il était venu faire un essai dans cette agence de publicité... Et il n'a pas fait long feu dans l'agence, il a fait juste un essai, et puis ça ne l'amusait pas tellement, il avait envie de garder sa liberté. On s'est retrouvés, on a fait du théâtre ensemble au groupe Octobre, c'était à un moment donné où on est devenus très copains comme ça, simplement, sans penser qu'un jour on travaillerait ensemble. Il y avait des tas de points, des tas de choses qui nous... D'abord, on s'était rappelé, on s'était aperçu qu'on avait travaillé ensemble au Bon Marché, ça déjà c'était une chose... Pas en même temps, mais quand même, on était des anciens du BM. Et le fait d'avoir été élevés en partie en Bretagne, l'un et l'autre, c'était les choses. Et puis on s'est aperçu un autre jour que, je vous dis que tout ça, ce n'était pas des occasions simplement pour faire porter un toast et aux rencontres. Un jour, on s'est aperçu qu'on était nés à Neuilly tous les deux, et vraiment à 60 mètres l'un de l'autre. Lui, c'était rue de Chartres, je crois, moi, c'était rue Louis-Philippe. Enfin, il n'y a peut-être pas 60 mètres, s'il y a des connaisseurs de Ville-Neuilly, ils vont sauter. Enfin, on n'était pas loin l'un de l'autre. Et puis, comme ça, on était contents de se voir, quoi.
Et le groupe Octobre, alors, parce que vous étiez un ancien du BM, mais vous êtes aussi un ancien du Géo. C'était une troupe de théâtre ouvrier au départ.
Oui, c'est venu, je crois tout à fait au début, puisque moi ça ne s'appelait pas encore Groupe Octobre quand je suis rentré dans le coup. C'était, ça devait être en 30 et quelques chez des poussières, enfin en 32 je crois, ou 33, je ne me rappelle plus. Et avec, je crois qu'un des pivots, un des artisans de ce truc-là, enfin d'organisation de ce groupe, ça a été, au départ, ça a été Bubu, Raymond Bussière. Oui, c'était... Lui-même l'a raconté très bien. Enfin, moi, je l'ai pas vécu, enfin, le début, tout à fait. Ça, je ne vais pas dire de bêtises. Il y avait une fille aussi qui s'appelait Suzanne Montel et qui s'en occupait très activement. Mais moi, surtout, c'était tout de suite, dès qu'on a eu des textes que Jacques Prévert écrivait pour le groupe et puis qu'on jouait nous-mêmes, puisqu'on n'avait pas loué des acteurs pour faire ça. Puis c'était le caractère de notre truc. C'était un théâtre ouvrier, quoi. C'est un théâtre de... C'était très amusant et très instructif en même temps. Toujours dans ce genre d'expérience, on apprend des choses. D'abord, le contact, les réactions du public, tout ça, ça forme, c'est vrai, c'est important. Et puis, j'ai joué dans plusieurs choses. Et en même temps que j'avais quand même d'autres activités, puisque c'était la période en même temps où je faisais mes petits films avec Jean Orange, les petits sketchs comiques. Et puis le moment où je gagnais ma croûte, toujours en fabriquant des stands pour la foire de Paris, où ça on les emménageait, ou je ne sais quoi. Enfin, fallait bouffer aussi. Je faisais des dessins de publicité aussi de temps en temps. Enfin, alors je m'équilibrais comme ça à peu près en faisant un peu de tout. Et en même temps, je faisais du théâtre. Et en même temps que je jouais du théâtre, de temps en temps, il y avait une fiesta, il y avait un truc qui était joué dans une salle de cinéma. Alors j'arrivais avec mon banjo ou avec une guitare hawaïenne, et puis je faisais un petit intermède musical. Et puis c'était marrant, quoi. Hein.
Et Prévert jouait aussi dans
il jouait pas du banjo ni de la guitare.
Non, mais Jacques, il jouait la comédie.
Il jouait la comédie. Je me souviens, une des premières fois, alors ça, c'est un souvenir. C'est un souvenir qui est resté très, très... très précis comme ça. Je crois que c'est la première fois qu'on a joué ensemble et qu'on est monté sur les planches. Parce que Jacques écrivait des textes, et puis moi j'étais content de regarder les copains qui commençaient à jouer là-dessus. Mais tout d'un coup, quand il a fallu monter sur scène et puis jouer le truc, c'était dans un sketch qui s'appelait Vive la presse. Et on devait apparaître sur la scène avec Jacques, on représentait des journalistes, enfin, je ne me rappelle plus quel journaux, il y avait l'Intransigeant, l'Ami du Peuple, je ne sais plus quoi. Et on avait bu deux, trois petits canons comme ça pour se mettre en train avant, parce qu'on avait un peu la frousse. Quand même, c'est vrai, on allait au culot, mais tout de même, c'était... J'ai revu une photo l'autre jour, une photo du groupe, où, justement de cette fameuse scène-là. Et ça se voit qu'on s'était préparé, quoi. Enfin, c'était... Oui, le groupe Octobre, c'était bien. Mais alors, surtout, ce qu'il y a, on était... toute une bande vraiment de copains. Le copain du groupe, ça voulait dire quelque chose aussi. Parce que il y avait... Bon, ils avaient tous leurs activités, comme je vous le disais, mais il y avait Marcel Duhamel, par exemple, qui, lui, à ce moment-là, travaillait dans un grand hôtel, il gagnait du fric, il était à la réception. Il y avait Max Maurice, qui faisait du doublage pour les films américains. Et alors, dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'il y avait un petit boulot qui se préparait, ou même pour Jacques ou pour Pierrot, Pierre Prévert, quand il y avait un film ou un truc qui se faisait, immédiatement, il se débrouillait pour... c'est une espèce de mafia, quoi. Il se débrouillait pour que les copains viennent jouer dedans. Enfin, c'est comme ça que j'étais embarqué dans l'hôtel du libre-échange, que j'étais ensuite avec Jean Renoir dans le crime de Monsieur Lange, enfin, tout ça. J'ai revu récemment à la Cinémathèque une projection de l'Hôtel du Libre-Échange.
Qui est un film de 1934 réalisé par Marc Allégret.
C'est ça. Et alors j'ai joué dedans un petit rôle qui m'avait laissé un souvenir pénible parce que je jouais le rôle d'un flic. Bon alors, j'ai traîné ça depuis cette période-là. Ça me tracassait de savoir que j'existais dans une boîte comme ça, dans un film, roulé dans un film, sous un flic. Bon. Et bon, j'étais voir le film l'autre jour pour voir comment c'était, et puis j'étais soulagé parce que la scène a été coupée, c'est formidable. Enfin, elle a été coupée, j'espère que c'est pas seulement à cause de moi, que j'étais pas bien dans ma peau, quoi qu'il est possible aussi qu'il y ait des flics qui soient pas bien dans leur peau, ça arrive aussi. J'ai été surpris pendant ce tournage parce que dès qu'un gars était habillé en flic, il y avait des purs figurants qui étaient habillés comme ça, avec des képis, il y avait des pèlerines et puis une matraque. Dès qu'un figurant est habillé en flic, il éprouve le besoin d'emmerder tout le monde. C'était, il agrippait les gens au collet, il commençait à leur foutre des coups de matraque sur la gueule et tout ça. Et c'est curieux, c'est quand même pas le... J'espère que c'est pas le costume qui fait ça, parce qu'à ce moment-là, je ferais des crochets dans la rue, je passerais sur l'autre trottoir.
Alors Jacques Prévert, évidemment, vous avez été amené à le revoir souvent et à collaborer très souvent avec lui.
Oui, alors... Jacques, par exemple, on a commencé à travailler un jour, c'était pour Le Petit Soldat, dans le fond. Parce qu'on se voyait beaucoup, mais on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Et ça a été pour Le Petit Soldat, ça devait être en 1940 et les poussières, que je lui ai demandé de travailler avec moi sur Le Petit Soldat. Il m'avait dit que ça lui ferait plaisir de travailler sur un court-métrage avec moi. Je lui ai dit, en ce moment, je prépare Le Petit Soldat, si tu veux, je vais montrer les choses. Et il m'a fait quelques remarques que j'ai trouvées très, très pertinentes, très, très valables. Je lui ai dit, écoute, on va faire ce boulot ensemble. Et puis c'est parti comme ça.
Alors, bien avant Le Roi et l'Oiseau, c'était déjà une adaptation d'un conte d'Andersen.
C'est ça, c'était le premier. Et alors, on se voyait beaucoup avec Jacques, parce qu'à ce moment-là, il habitait rue des Beaux-Arts, à l'hôtel rue des Beaux-Arts. Et... Alors, on travaillait ou chez lui, ou on travaillait au bistrot, ou on allait chez Constant à côté, c'était un bouillon qui était à côté. Puis quelquefois, on s'égarait un peu, on se changeait un peu de secteur, on allait au Flore, on allait ailleurs. Et quand on rentrait tard, alors on disait toujours à Jeannine, la femme de Jacques, on est en retard parce que c'est Jacques qui lui disait, il dit on a rencontré Gonon. C'était pas en attendant Godot, on a rencontré Gonon. Gonon, c'était un relieur, un vieux monsieur très très gentil, très sérieux, très sage, comme ça, qu'on rencontrait dans le quartier, et qui était un relieur qui faisait des choses très, très jolies d'ailleurs. Alors c'était une caution, quoi. Gonon, c'est un monsieur très sérieux. Alors quelquefois, on rentrait très tard, mais plus que ça même. On était avec Gonon, on disait, comme ça. Et alors le pauvre Gonon, il n'a jamais compris pourquoi d'ailleurs. Jeannine lui faisait la gueule quand elle le rencontrait comme ça, elle le foudrait. Lui, il adressait un beau sourire, elle le regardait de travers comme ça. Il ne comprenait pas, il disait qu'est-ce que je lui ai fait à cette brave dame quand même. Alors que simplement, c'était lui qui faisait le pigeon, quoi, le pauvre. C'était gentil. On lui a dit un jour, et il s'est bien marré, il était content. Puis Jeannine aussi est au courant maintenant. Enfin, ça s'éclaircit. Il y avait aussi Robert Desnos, bien sûr, qui habitait à côté, à rue Mazarine. Robert Desnos, alors c'était aussi un gars merveilleux, quoi. Je ne peux pas vous raconter qui était Robert. Avant la guerre, il était à Radio Luxembourg, il travaillait, il cherchait des textes, des machins pour la Bolle de Florine, pour des trucs comme ça. Il y avait un musicien qui travaillait avec lui, qui faisait Jacques Météenne. Et j'allais le chercher de temps en temps. Moi, j'étais rue de Berry à ce moment-là. C'était à l'époque où on avait commencé les Gémeaux et l'époque où on était persuadé que pour faire carrière dans le cinéma, il fallait avoir une adresse du côté des Champs-Élysées. Alors, c'est pour ça qu'on avait trouvé des chambres de bonne rue de Berry et puis ça faisait une adresse. 18 rue de Berry, ça sonnait bien. Alors, de temps en temps, je foutais le camp à l'heure du déjeuner, puis j'allais manger un sandwich avec Robert. On allait juste en face, il y avait un bistrot qui existe toujours, mais maintenant qui est devenu beaucoup plus coquet, beaucoup plus sophistiqué. C'est un bistrot qui était en face Radio Luxembourg. Et là, on mangeait de très bons sandwichs aux anchois, avec un petit coup de vin de midi, comme ça. Puis vin de cassis. Voilà. On parle tout le temps de bouffe, vous voyez, mais c'était de la bouffe modeste, quoi.
Et comment était-il Desnos, alors ?
Robert...
Parce qu'il n'était quand même pas toujours en sommeil hypnotique.
Non. Non, d'ailleurs, j'ai une très jolie dédicace. Une très jolie dédicace sur un de ses recueils de poèmes qu'il m'a donné, que je relisais il y a quelques jours, comme ça. À Paul Grimaud, C'était un recueil de poèmes état de veille. État de veille pour état d'ivresse. À mon ami Paul, donnant son ami Robert Desnos. C'est très gentil. J'aimais beaucoup Robert. Enfin, c'était. Il était comme ça, très. Enfin, à côté un peu enfiévré, enfin. Je me rappelle d'une chose, par exemple, un jour, parce qu'il avait très souvent des copains qui venaient dîner chez lui. Les copains, il y avait toujours avec Yuki, il y avait Roux, le peintre, Samy Simon, Gendaire, Aéro Carpentier, Damas, Frankel, etc., etc. Puis moi, bien sûr, aussi, et puis encore d'autres. Et un jour, il est rentré comme ça, le soir, il était en retard, et il est revenu, il était vraiment surexcité, survolté. Ah, il dit, j'ai vu un gars formidable qui enregistre un truc dans le studio, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est formidable. Il dit, j'ai noté son papier, c'est un gars qui s'appelle Charles Trenet. Formidable, hein. Ah, il était gonflé à bloc, alors il nous expliquait comment chantait Charles Trenet, le fou chantant et tout ça. Ça devait être drôlement, drôlement marqué. C'était... Et parce que c'est passionnant, il était très passionné, Robert. Le jour où il s'est engueulé avec ce gars chez Lippl, un gars qui, je sais pas, qui le regardait de travers et qui lui, enfin, il se connaissait. L'autre le regardait de travers parce qu'il voulait pas le regarder tout droit, parce que peut-être qu'il n'avait jamais regardé quelqu'un en face non plus. Et Robert lui a dit, moi, cette face d'or, il a dit, valet de Béraud. Il commençait à l'engueuler comme ça, l'incendie. L'autre s'est levé, Robert, et puis il se précipitait, puis il était beaucoup plus gros que Robert. Alors il s'amène et Robert lui balance son demi dans plein de gueule, comme ça, l'autre était plein de bière. Alors il attrape Robert, moi je file un coup de poing dans la gueule du gars qui tombe assis sur la table à côté. Enfin, une espèce de bagarre de chiffonnier incroyable. Pendant l'occupation, j'ai été le voir plusieurs fois parce qu'il avait, à ce moment-là, il travaillait dans un journal, Avenue de l'Opéra, c'était Aujourd'hui, il s'appelait le journal. Et il était quand même. Il y a eu un moment où je l'ai senti très préoccupé parce que. Bon, il y avait un gars qui l'avait attaqué et tout ça, personne ne l'a su tellement parce que lui-même restait plutôt discret, mais c'était pas la peine de faire de flamber, d'attiser le feu, quoi. Mais il y a un gars qui lui cherchait les poux dans la tête et les gens ne le croient pas quand on le dit, mais moi vraiment je le sais parce que Robert m'a montré les trucs, c'était Céline, il s'est conduit d'une façon absolument dégueulasse avec Robert Desnos, enfin ça sentait vraiment le poulet, hein. C'était vraiment très très moche, j'ai pas encaissé le coup quand même. Enfin quand il disait qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là en parlant de Robert Desnos, c'est incroyable, alors Robert Desnos il continuait simplement d'écrire ses trucs, en me disant Robert Desnos dit Desnos, quoi. Hein, vous voyez le truc.
Enfin, c'est-à-dire que c'était des attaques écrites.
Ah, oui, c'est des attaques assez moches, virulentes. Hein.
Et publiques, je veux dire, publiées.
Oui. Alors, Robert, il a été. Je ne vais pas vous raconter comment ça s'est passé, vous, tout le monde est au courant, de la façon dont il a été embarqué comme ça, à Compiègne d'abord, et puis.
Est-ce que vous avez été lié avec d'autres surréalistes?
Bon, non, j'ai connu un peu, mais enfin, je peux pas dire que c'était. Moi, j'avais beaucoup de. J'étais très intéressé par le mouvement surréaliste. Vraiment, ça m'a marqué beaucoup aussi, tout ça. Enfin, je suis pas rentré, ça n'a pas été très très loin dans les rapports de. Enfin, je peux pas dire que j'étais leur copain. Vous voyez, ils vivaient beaucoup entre eux. Enfin, à vrai dire, c'était une. Enfin, J'ai connu Perret, avec qui j'étais assez copain, avec Benjamin Perret. J'ai connu Max Ernst, bien sûr. J'ai rencontré Breton, mais j'ai jamais autant vu que le jour où j'étais à son enterrement, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de respect pour le bonhomme, c'était vraiment quelqu'un, quoi. C'est Jacques Prévert qui m'avait dit, tiens, viens avec moi, Breton, si ça va. Bon, c'est allé comme ça. Bon, je pense que c'était un mouvement très, très important. Très important, qui n'a pas fini d'ailleurs de on peut pas dire que ça a été complètement oublié, bousculé, ça laisse des traces toujours, c'était indispensable qu'il y ait le surréalisme.
Et ça laisse des traces dans votre œuvre, il me semble. On sent au moins une connivence avec le surréalisme et dès vos premiers films. Il me semble que Le Marchand de notes, dans sa fantaisie délirante, absurde, a quelque chose de surréaliste.
C'est possible, en tout cas je ne le redis pas, au contraire, enfin je veux dire, j'ai pas essayé de faire du surréalisme, mais j'étais marqué par ça.
Je crois que vous avez connu Camille aussi.
J'ai connu Camille en 1939. En 1939, c'est-à-dire, je situe ça la date, l'époque a de l'importance, parce que il était venu me voir. Il avait pensé que ça m'intéresserait de faire un dessin animé, un film de long métrage, avec le Baron de Krak. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas si ça avait marché le truc, je ne sais pas si ça aurait été une aventure périlleuse, mais enfin, ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons. Moi, j'aimais beaucoup Camille. Enfin, il avait d'abord son humour, vous le connaissez, et puis très fidèle pendant la guerre. J'ai reçu des cartes, des lettres de lui, comme ça, même un colis qu'il m'avait envoyé une fois qui m'est arrivé, mais complètement défoncé. Je ne sais pas, il ne savait pas faire des colis, d'ailleurs. Enfin, ça. Puis il y avait un truc aussi avec un dessin très joli qu'il m'avait envoyé, une carte où on voyait le baron de Krak, un dessin à la plume qu'il avait fait, devant moi, dessiné par Camille, vous imaginez ce que ça pouvait être. Et alors qu'il me tendait un verre, comme ça, un grand verre, une espèce de hanap, comme ça, et il disait, « À la tienne, Paul Grimaud, je m'en jette un dans le jabot, à la mienne, Grimaud Paul, lance-t'en un dans le faux col. » Signé Baron de Krak et Camille. Bon, c'était ça. Alors, c'était marrant, quoi. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, parce que... Et puis, ça remontait loin, parce que je me souviens, quand j'étais tout mouflé, enfin, quand j'allais encore à l'école, quand j'ai commencé à aller à Germain Pilon, c'est-à-dire j'avais 14 ans, peut-être 15 ans, je sais pas. Je trouvais qu'il y avait ces petits opuscules, des petits machins, c'était pas Baudinière, déjà, qui imprimait ces trucs-là, mais des tout petits opuscules où il y avait des trucs d'Alphonse Allais, de Duvernois, de Camille, tout ça. Ces petites éditions qui coûtaient 4 sous, et c'était formidable. Alors c'est comme ça que j'avais connu Camille. Alors après il avait écrit deux romans policiers aussi. Des romans policiers, avec un inspecteur qui s'appelait l'inspecteur Grimaud.
C'était pas un hasard.
Je lui ai dit, il faut me trouver autre chose. Je lui disais, j'aimerais mieux quelque chose d'autre. Que faut... Oh, c'était bon. Voilà, Camille. Enfin. Et c'est ça qui est quand même formidable. J'ai rencontré, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est, bon, pour moi, je dis que c'est une chance d'avoir des idoles, des trucs comme ça. Et puis, il s'est trouvé que toutes ces... Mais que ça soit pas seulement dans le cinéma, dans d'autres domaines aussi, je les ai tous, à peu près tous rencontrés. Je les ai tous rencontrés. J'ai rencontré Charles Dullin, j'ai parlé avec lui... Pas au début. Au début, moi, j'allais à l'atelier donner un coup de main. Moi, j'étais passionné par l'aventure. Autrefois, quand j'étais dans le faubourg, j'étais voir les oiseaux, j'étais voir Volpone, j'étais voir tous ces trucs-là. Je connaissais tous les trucs par cœur. Ensuite, quand j'ai travaillé avec Marcel Héran et Jean Marchat pour donner un coup de main pour des décors et pour des trucs comme ça, j'allais tous les soirs à l'atelier. Je passais par les coulisses, par la petite rue sur le côté. Je passais par les chaises en bois là, dans la cour. Et je rencontrais Dullin, moi je ne mouflais pas comme ça, je saluais comme ça, très timidement. Il me regardait, il était occupé toujours un tas de trucs. Et il y avait une petite voix d'ailleurs, Dullin. Alors je voyais pendant les répétitions, je me tenais dans un coin, puis je regardais ça, je me tenais tranquille, hein, parce que il menait ça tambour battant. Oui. Et un jour je l'ai rencontré un jour à la Comédie Française, c'était un truc dans lequel jouait Barrault. Et là, à l'entracte, je vois Dullin, je fais signe comme ça, et c'est lui qui, à ce moment-là, me fait signe, il me dit « J'ai vu tes films. » Ah, il me dit « J'aime bien ça. Il faudrait que je vienne te voir un jour. » Il me dit « Il faudrait que tu montreras comment tu fais. Voilà. » C'était. Alors, je n'avais jamais parlé avec lui avant. C'est drôle, hein. Il avait dû dire « Qui c'est ce gars-là qui vient là, qui est en train de bricoler, qui plante des clous, qui fait des trucs, qui fait... » Hein? Il avait dû se... Et puis alors, on lui avait dit, oh ben, c'est un copain, c'est Grimaud, il fait des dessins animés, il fait des trucs, puis il s'amuse, il aime bien le théâtre aussi. C'est marrant, hein. Alors, j'ai comme ça, occasionnellement, j'ai rencontré des tas de gens. J'ai connu Max Linder en 1925. Eh ben, je l'ai vu trois fois. J'ai même fait, quand je travaillais au Bon Marché, parce qu'il préparait un film... Et ce film, pour ce film, il avait besoin de louer des meubles et des trucs au bon marché. Et il y avait une question d'implantation avec les machins. Il avait amené des plans. Et moi, j'avais d'après les plans, d'après les croquis très schématiques des surfaces et tout ça, j'avais découpé des petits meubles en carton. Et puis j'ai placé, j'ai fait plusieurs combinaisons comme ça. Et alors, c'est comme ça que j'ai connu Max Linder. Et c'est comme ça que j'ai dit aussi à Maud Linder comment était son père, ouais. Parce qu'elle ne le connaissait pas.
Et comment était-il alors ?
Charmant, petit, enfin plutôt petit, et très élégant toujours, très vif, très... Enfin, moi j'étais épaté, quoi. Hein, parce que Max Linder, moi j'avais vu au cinéma, comme j'avais vu... Enfin, on est toujours épaté, surtout quand on n'est pas dans le cinéma, qu'on voit tout d'un coup un gars, dont on parle dans l'actualité, on est soufflé.
J'ai quand même bien envie de vous faire parler d'un spécialiste de l'argot, alors c'est Albert Simonin.
Alors, bien sûr, avec Albert Simonin, j'ai fait là, le petit Simonin illustré, j'ai fait des illustrations pour ça. Je ne sais pas combien il y avait d'illustrations, pas loin d'une centaine. C'était un dictionnaire très illustré, un dictionnaire d'argot. C'est dommage parce que c'est épuisé, le truc.
Vous avez mis l'argot en image.
Oui, avec préface de Cocteau. Il y avait des définitions formidables alors, dans le truc. Ah, c'est génial, le truc.
Oui, j'en ai quelques exemples, là.
Oui, vous pouvez nous les lire, tiens, ça va me faire reposer un peu.
Alors, il y a Charmeuse. Mm-hmm. Là, vous avez fait une vingtaine d'illustrations de moustaches, mm-hmm. de bacchantes, de toutes formes, pour les Charmeuses. Exemple, les hommes 1900 avaient la Charmeuse coquine. Mm-hmm. Galuche, cigarette gauloise. Exemple, j'en veux pas de tes pipes de pédale, je fume que la galuche. Il y a Tasse aussi.
Ah oui, il y a Tasse, oui.
Pour Vespasienne, mm-hmm. non féminin.
Si le besoin de l'enscailler vous tourmente par ses dix plombes, enquillez jamais dans la tasse du bon marché. Il s'y donne un festival de l'œil de bronze entre amateurs où vous pourriez que gêner. C'est déjà très avec beaucoup de politesse. Hein,
Et vous avez dessiné une Vespasienne.
Je la connaissais bien puisque je travaillais au bon marché en plus, monsieur. Mais je ne m'en suis pas servi dans le sens où il en parle. C'est moi qui ai inventé le mot « vachement ». Et alors, « vachement », voilà ce qui est écrit dans le dictionnaire. Je suis un amateur du dictionnaire Larousse aussi. « Vachement », adverbe populaire, beaucoup, très. Deux points, une course vachement disputée. Alors, je suis quand même assez fier d'avoir écrit un adverbe. C'est vachement réconfortant quand même, hein. Un mot nouveau de la langue française, enfin c'est quand même... j'ai beaucoup. L'origine, vous savez comment ça s'est passé? S'il y avait un gars qui travaillait avec moi dans l'atelier de meubles, il s'appelait Paul Wolf, il était suisse. Et alors, il y avait un mot qu'il utilisait souvent, c'était le mot « vache ». Parce que le mot « vache » existait déjà, on disait dans le sens dur, sévère, etc.
C'est une vache.
Alors, il disait « c'est vache qui m'arrive ». Il y avait toujours quelque chose de « vache » qui lui arrive. En plus, il y avait une tendance à postillonner aussi quand il disait c'est fâche, et puis il faisait fâche, ça, pof, ça recommençait, il faisait ça au-dessus de ça. Alors j'ai dit simplement un jour, pour accentuer le côté vache du terme, quoi, je lui ai dit c'est vachement vache ce qui t'arrive. Et le gars, il a explosé à ce moment-là, il n'a fait que ça, il a répété ça, il a cassé les pieds à tout le monde dans tout le quartier, c'est devenu le mot vache. Puis alors, ça transpirait, c'est parti, c'est comme ça.
Ah oui, alors voilà, la vie dure, hein, oui. Parce que...
Comme me disait un jour Jean Vianer, puis Jean-Henrique me disait aussi, que si un jour ils en parlaient ensemble, et Jean me disait, si tu avais touché seulement un sou, chaque fois que quelqu'un dit ça, il dit, mon vieux, tu t'emmerderais pas à chercher du pognon pour faire tes films.
Ça serait vachement bien.
Oui.
C'était le quatrième entretien de Jean-Pierre Pagliano avec Paul Grimaud. Mixage, Michel Mirou. Réalisation, Annie Wojciechowska.
Tout de suite, dernière partie de cet entretien avec Paul Grimaud, diffusé pour la première fois le 3 octobre 1985.
Le progrès, enfin, je vais revenir à une phrase de Jacques Prévert, parce que j'aime bien. Jacques, il disait, le progrès, c'est un cul de jatte qui marche à pas de géant. Je trouve ça formidable. Hein. Non, mais c'est ça, quoi. Hein.
Entretien avec Paul Grimaud par Jean-Pierre Pagliano. Cinquième bobine, un maître d'école buissonnière.
Le public connaît mal le travail des cinéastes d'animation. On a très peu d'occasions de voir leurs films en dehors des festivals. En France, les festivals d'Annecy et de Marly-le-Roi. C'est une situation qui n'est pas très stimulante. Faire des courts-métrages qui risquent de n'être vus que dans des festivals ou dans des commissions qui vont attribuer des primes à des films ou qui ne vont pas s'y intéresser. Vous-même, Paul Grimaud, vous nous avez raconté que ça n'a pas été toujours très facile pour vous.
Moi, j'avais décidé de laisser tomber le court-métrage. J'étais assez écœuré. Il y a des périodes d'écœurement, de découragement aussi qui vous traversent au cours d'une carrière. C'est normal, quoi. Ça, on n'est pas indifférent, on n'est pas... Et ça a été quand j'ai vu des jeunes gars qui sont venus me trouver pour me demander si je pouvais leur donner un coup de main, leur apprendre un peu le boulot et tout ça. Alors, ça a commencé avec Jacques Colomba, qui est venu ici. Et Jacques Colomba a commencé, évidemment, comme tout le monde, à faire du court-métrage parce qu'il fallait commencer par quelque chose pour apprendre son boulot. Faut commencer par le court-métrage. Et ensuite, Jacques Colomba, quand il a eu fait son premier film qui s'appelait Marcel, ta mère t'appelle, il a fait un film en vue réelle qu'il a fait ailleurs, qu'il a fait tout seul, d'après un conte de Sade, qui s'appelait Les Filous. Et puis, il a refait un autre film ici qui s'appelait La Tartelette. Il y a un de ses copains qui était ses copains d'école et qui a fini son service militaire à ce moment-là. Qu'il m'a amené un jour parce qu'il voulait aussi essayer de faire un peu d'animation, c'était Jean-François Laguillonni. Et quand Jean-François Laguillonni a fini de quitter son uniforme militaire, il est venu ici et il a fait son premier film qui était La Demoiselle et le violoncelliste. Puis il a fait ensuite L'Arche de Noé, puis il a fait ensuite Une bombe par hasard. Et alors, tous ces films, ils les ont fait ici. D'une part parce qu'il y avait le matériel, il y avait la possibilité, puis en même temps, disons, ma présence bienveillante à côté d'eux, je me servais un peu de garde-fou, j'essayais pas de les amener à faire des films comme je les aurais fait moi, personnellement, mais j'essayais de les encourager à trouver eux-mêmes leur langage, leur cuisine, leur style, leur système, à trouver leur truc, leur métier, quoi, c'est ça, dans le fond.
Leur propre voie, quoi. Leur propre voie. Vous étiez un maître d'école buissonnière.
Oui, par exemple, oui, c'est plus juste qu'autre chose. Et alors, ils ont fait ces films-là, et c'est à cause de ça aussi que je suis devenu producteur. Parce qu'ils n'avaient personne ne leur faisait confiance. Ils avaient été trouver d'autres gars, les gens disaient non, ça ne vous intéresse pas. Et c'est à cause de ça que j'ai pris ma carte de producteur. Je suis devenu producteur et j'ai commencé comme ça. Puis en les voyant se remettre là-dessus, moi ça m'a démangé. J'ai dit merde, après tout, je ne vais pas laisser regarder. Je ne vais pas passer mon temps à les regarder. Alors je vais me remettre aussi à faire un peu d'animation. Alors j'ai fait un truc qui s'appelait La fin du monde, et puis j'ai fait Le diamant, et puis j'ai fait Le chien mélomane, dans des conditions difficiles, comme je vous l'ai expliqué déjà, pour revenir là-dessus. Et puis j'ai fait aussi un truc pour la Comédie française, pour un spectacle qui était donné à l'Odéon, C'est la guerre Monsieur Gruber, dans laquelle il y avait tout un truc scénique d'animation, enfin, qui était intéressant. C'est une expérience très, très intéressante, avec Jean-Pierre Miquel, qui avait monté ça. Et alors, bon, j'avais repris ce pli en attendant, parce que je commençais à songer sérieusement au Roi et l'Oiseau, et je me disais, il faut que je me prépare. Et puis, en même temps, je reprenais contact avec des anciens, avec des trucs. Et il y a eu également, à ce moment-là, encore, il y a Émile Bourget qui est venu travailler avec moi, qui est devenu mon assistant, qui a fait son film La Tête. Et puis un Égyptien aussi qui s'appelle Yap Shaker, qui a fait son premier film ici, un film très très drôle, très très marrant, et qui s'appelle 1, 2, 3. Et qui fait que quand je suis arrivé en Égypte l'année dernière pour parler un peu de cinéma français et de machin comme ça, et de dessin animé, et puis de montrer des choses, quoi. Alors, beaucoup de gens me connaissaient parce que j'étais, dans le fond, le producteur de machin comme ça. Bon. Enfin, tout ça était plaisant et plaisant parce que je me suis fait des amis. Mais surtout, les gens, vous savez, dans la profession, c'est surtout avec les amis, c'est avec les gens avec qui j'ai travaillé. Beaucoup sont devenus amis. Beaucoup. En dehors de ça, il y a des gens qui m'ignorent et que j'ignore aussi. Mais enfin, on ne peut pas connaître tout le monde non plus, quoi. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui tiennent tellement à l'originalité de leur truc. Enfin, qui se disent, moi, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, il y a aussi, ça c'est dans les milieux artistiques, souvent on a ces espèces de petits machins comme ça, de petits malaises dans les contacts. Enfin, les sourires dans les générales, dans les vernissages, et puis petite pique derrière. Alors ça, moi, je ne joue pas ce jeu. Enfin, mais j'aime beaucoup les gens qui font cette profession. Je suis attaché. Vous voyez, je trouve qu'ils n'ont pas un jeu facile. Hein. Et je les aime bien, quoi. Hein. Je les aime bien. C'est un monde qui me plaît bien.
Est-ce que vous avez des relations avec des gens comme McLaren?
Oui. Je suis très ami avec McLaren.
Que pensez-vous des expériences de son synthétique, de musique synthétique de McLaren?
Ce sont des choses intéressantes. C'est de la recherche. C'est de la recherche, c'est intéressant. Pour les films qu'il fait, c'est très bien. Il a fait des choses comme, par exemple, comme Blinkety Blank. Ça. Je trouve ça très intéressant, très bien.
Et il fait des tâches sur la bande-son du film directement, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par un procédé d'enregistrement.
Non, d'ailleurs, même, il a fait certains films, McLaren, où il peut se passer complètement, où il se passe complètement de caméra, de micro et de tout, quoi, parce qu'il prend un bout de pellicule, enfin une bande de pellicule vierge, ou de la pellicule noire, il va graver sur l'émulsion, sur le noir d'émulsion, il va graver avec une pointe pour avoir un trait blanc, ou sur une pellicule blanche, il va peindre, sur une pellicule transparente, il va tracer à la plume ou avec un moyen quelconque, il va traverser le personnage, ou il va faire des taches avec des encres de couleur et des feutres, tout ce qu'on veut. Et il fait ça image par image avec le contrôle, un système devant lui sur sa table qui lui permet de voir l'image qui précède, les images qui précèdent pour confronté avec l'image sur laquelle il travaille, pour avoir tout de même une référence de ce qu'il y a du passé, quoi. Tenant compte des films qu'il réalise, je pense que c'est un assemblage qui est très intéressant. Très intéressant, parce que lui, ce sont des choses purement, purement esthétiques, enfin purement... C'est de l'abstraction aussi. Mais pour moi qui raconte des choses, j'essaie de donner plus d'apparence de réalité au personnage et à l'univers sur lequel je travaille. J'aime autant avoir recours à des procédés plus traditionnels. Ça ne veut pas dire que je sois purement un traditionaliste, vous comprenez, mais quand je suis habitué à un outil et qui correspond bien à ma façon de m'exprimer, j'ai absolument, absolument pas envie d'en changer pour simplement poursuivre un courant de mode. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça.
D'ailleurs, McLaren, à vrai dire, n'avait pas inventé cette technique du grattage d'image. Len Lai l'avait fait avant lui.
Oui, Len Lai a fait. C'est un personnage merveilleux, Len Lai. Vous l'avez connu?
Non, je connais ses films.
Oh là là là, il était formidable. Moi, je l'ai rencontré à c'était à Cambridge. Il y avait un petit festival là-bas. Un festival, ils vont être vexés si je dis un petit festival. Les gars, ils se sont donné assez de mal pour se mettre ça debout. tout d'un coup, il y a Len Lai qui est monté sur scène parce qu'il y avait une petite rétrospective de ses films, un hommage qui a été rendu en même temps, un mini-hommage où on est projeté des vieux films qu'il avait réalisés autrefois et aussi des choses tout à fait récentes. Je délire, enfin, total, toujours à chaque coup, mais c'était formidable. Et alors, il a décidé de faire un discours. Et alors, il était donc sur scène, et vêtu d'une façon très, très étrange, parce qu'il avait un chapeau pointu, un peu comme un, c'est pas comme un petit gnome, vous savez, comme un espèce de lutin, un truc qui était jaune citron, puis il était habillé de rouge, de vert, enfin, de couleur, comme ça, c'est varié. Et en même temps, très détendu, très décontracté, un peu comme ça, débraillé, comme ça, savamment débraillé, il est monté. Et il a commencé à parler, et ça a duré très très longtemps. Et alors, j'étais assis à côté de Monsieur Happé, qui était l'ancien directeur de Technicolor, qui j'avais eu d'excellents rapports pendant des années, puisqu'on avait travaillé ensemble sur mes premiers films. Et sachant que je parlais presque pas l'anglais, comme ça, très gentiment, était avec sa femme et il me traduisait au fur et à mesure ce que disait
Len Lai.
Et puis à un moment donné, je l'ai vu qui est devenu très pensif et puis il écoutait comme ça, puis ben, chuchotait avec sa femme tout doucement et puis puis c'est arrêté comme ça. Et alors ça a duré longtemps, très longtemps, très longtemps. Et à un moment donné, il y avait à peu près une heure que ça durait. Il se tourne vers moi, il me dit vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Alors je lui dis non. Il me dit moi non plus, mais lui non plus. Très britannique, hein, que vous. Pour en venir à cette histoire de son dessiné, j'ai pu suivre l'opération de plus près, car j'ai eu ici ce garçon égyptien dont je vous ai parlé déjà, qui s'appelle Eyyab Shaker, qui a fait son premier film ici, un film qui s'appelle 1-2-3. Et c'est McLaren qui me l'a envoyé, ce gars. Lui, il avait écrit à McLaren pour lui demander... qu'est-ce qu'il pouvait faire pour apprendre un peu d'animation, et puis il avait envie de faire quelque chose. Voilà. Et McLaren lui a dit, plutôt que de venir d'aller cavaler là-bas au Canada, et ça, il a dit, allez voir mon ami Grimaud à Paris, et sûrement s'il peut vous aider, il le fera sûrement. Et effectivement, moi je lui ai dit au gars qu'il pouvait venir, quoi, puis je lui expliquerai ça. Et un jour il est arrivé ici, et alors, c'était difficile parce qu'il parlait presque pas le français, ben, vraiment un peu. Et il a commencé à me raconter quelque chose, et... Je pigeais que dalle, enfin je pigeais rien du tout. Mais enfin, petit à petit, on a réussi à s'entendre. Et il a fait son film, et ce film est très drôle. Il y a ces trois petits sketchs très courts. Et il y en a deux qui ont été faits avec la musique, une musique qui a été faite par Olivier Bloch-Lenné, qui est un jeune gars. Et c'est très intéressant ce qu'il a fait, une musique très, 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 très nouvelle, très, très curieuse. Et lui, le troisième film, il a dessiné la bande sonore dessus, sur son film, sur un film. Mais il l'a dessiné sur un film qu'on a ensuite projeté et réenregistré, parce qu'il a dessiné les vibrations, mais ce n'est pas ça qui a servi pour faire le film. C'est-à-dire que ce son-là, on l'a réenregistré pour en avoir un son enregistré optiquement, vous voyez. Et le résultat était très intéressant. Il avait pris pour ça des choses, vous savez, dans les trucs de lettres à 7 ou de machin comme ça. Il y a des espèces de petits points, des signes de points, tout ça. Il avait décalqué ça sur la piste sonore avec des triangles, des choses. Et ça donnait une espèce de mélange de sons très, très intéressant. C'est drôle, en fait.
Oui, parce que le principe, évidemment, c'est qu'à chaque... tâche, à chaque grosseur de point correspond à un son différent.
Oui, c'est ça.
Plus alors, grave ou plus aigu.
C'est plutôt la fréquence des signes qui donne.
Oui.
Si vous avez des signes très serrés, à ce moment-là, vous avez une note plus aiguë. Si les signes sont très espacés, alors c'est bom, 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 bom. Et puis, si ça va en augmentant, c'est bom, 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 bom. Hein, et vous avez une note, un truc suivi. Alors qu'à l'envers, c'est un truc qui va s'espacer pour détacher chacune des vibrations. C'est un domaine intéressant aussi. Il y a dans notre métier, il y a tout le temps des choses à trouver, à bricoler. On est amené toujours à ça. On est amené à... On peut pas parler d'une technique définitive, sauf comme je vous le disais, quand on est habitué et quand on sait qu'un outil ou qu'une technique est la plus appropriée, c'est la seule qui nous permettra à coup sûr de nous exprimer ce qu'on a envie de raconter. À ce moment-là, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Mais en dehors de ça, il y a toujours une part de recherche sans arrêt. Il y a toujours des choses à trouver pour aller plus loin.
Ce qui est excitant dans le cinéma d'animation, c'est que tout est possible. À partir du principe de base qui est l'image par image, on peut tout faire, on peut tout expérimenter.
Oui, on peut tout expérimenter. Mais je crois aussi que ces expériences, enfin tout ce qu'on peut acquérir comme ça, on l'acquiert davantage quand on peut, quand on a la possibilité encore de bricoler les moyens avec lesquels on travaille.
Vous voulez dire qu'avec l'ordinateur, puisqu'on parle beaucoup de ça maintenant, on ne peut pas bricoler l'instrument ?
C'est-à-dire que l'ordinateur, ça existe. Moi, j'ai vu des choses très intéressantes. En fait, c'est un jouet extraordinaire, c'est un matériel, c'est un outil extraordinaire pour certaines choses. Moi, si je faisais des films scientifiques ou techniques, je m'en servirais tout le temps, parce que ça permet des tas de trucs. Mais d'abord, ça, c'est pas moi qui m'en servirais. Ce sont des gens qui sont spécialistes, qui se servent de ça, et vous êtes à leur disposition. Il faut leur dire, moi, je voudrais bien avoir ça. Le gars vous dit, c'est possible ou c'est pas possible. Enfin, on commence à être dépendant aussi de quelqu'un d'autre, d'un autre metteur en scène, un autre metteur en image, en nom, de tout ce que vous voulez. Et alors, à ce moment-là, on s'efface devant le moyen. Moi, le moyen, c'est bien si je le contrôle. C'est pour ça que on dit aujourd'hui, on nous dit toujours, l'artisanat maintenant c'est condamné. Ce qu'il faut, il y en a que pour les images nouvelles, pour les nouvelles techniques, industrialisation, etc. Alors pourquoi condamner l'artisanat ? À mon avis, c'est ce qui a toujours donné le meilleur dans l'animation, c'est ce qui donnera toujours le meilleur dans l'animation, telle que je la conçois. Oui, parce que mon boulot, c'est de raconter des histoires en dessin animé. Il y a, par exemple, la cohésion des équipes, c'est une chose capitale. Savoir comment les gens vont s'habituer à travailler ensemble. Moi, je n'ai travaillé qu'avec des gens qui ont appris leur boulot dans le studio et qui ont, enfin, ici et dans les studios précédents dans lesquels j'ai travaillé, parce que je n'ai pas toujours travaillé ici. Ici, je suis là depuis 1951, mais j'ai travaillé ailleurs, rue de Berry, rue Cardinet, à Neuilly, etc. Et à chaque fois, il y a eu, tant que ça correspondait à une augmentation, à un développement de l'affaire, ça allait en se montant comme ça. Et puis, ça même était, à la fin, il y avait aussi la machine à pointer, vous voyez, parmi le matériel. Et à ce moment-là, je sentais aussi confusément moi-même que c'était un danger, parce que ça devenait une usine. Et bon, peut-être que c'est indispensable, mais à ce moment-là, il vaut peut-être mieux changer de métier. C'est l'apprenti sorcier, il faut faire gaffe, hein. Alors, tout ce truc des équipes, avec les équipes qui ont été montées, avec le matériel qu'on bricolait, qu'on ajustait, alors tout ça, c'est ce que je considérais comme un actif, ça a été critiqué, attaqué, ridiculisé, mais surtout par tous ceux qui ont flairé le vent nouveau, hein, quand on a dit, il faut faire quelque chose pour les trucs nouveaux, etc., etc., il faut pas se dépasser, actuellement on ne parle que de l'ordinateur. Alors, avec tout ce que ça apportait, toutes ces idées qu'on nous proposait, tout ce que ça apportait comme possibilité de soutien de l'État, de financement à ceux qui abonderaient dans le sens des nouvelles techniques, à ce moment-là, il n'y en a eu que pour eux. Vous voyez, c'est quand même très très dangereux. Alors le progrès, moi je veux bien, hein, mais il ne faut pas tout mélanger. C'est comme dans ces nouvelles cités, dans ces grands ensembles qu'on construit un peu partout dans les villes, sur des terres de culture. Et puis après, comme il faut faire bouffer tout le monde, alors on essaie de rendre fertiles des champs de cailloux et des endroits stériles. Hein, alors qu'on a esquinté, on a sacrifié des terres sur lesquelles tout poussait, les terres de culture maraîchère. C'est un peu comme... C'est un peu comme l'histoire des haies qu'on a supprimées dans le bocage breton, parce qu'il y avait des instructions qui avaient été données par des technocrates qui sortaient des grandes écoles. Puis on s'est aperçu que c'était une connerie, il a fallu... Et tout ça, c'est des années de perdu. Hein. Et à quoi ça nous mène, tout ça ? Alors moi, je sais pas, faudrait quand même un de ces jours présenter un bilan de ce que ça aurait coûté, tout ça, en financement, en temps, montrer les résultats, savoir ce qu'on a, tout ce qu'on a sacrifié pour en arriver là, savoir ce qu'on a foutu en l'air, qu'est-ce qu'on a avantagé, ces grandes usines, ces grands trucs qui vont sortir des énormes merdes et des trucs comme ça. Alors quand il y a de quoi se foutre en pétard quand même, hein.
Oui, lorsque ça devient vraiment un produit standard, industriel, normalisé, etc., je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a quand même eu des pionniers, je pense à Peter Foldes, qui lui a réussi à intégrer ces nouvelles techniques.
Non, mais il a fait de la métamorphose. Il a fait des métamorphoses, c'est pas de l'animation. C'est-à-dire qu'un dessin devienne autre chose, d'accord ? Mais une animation, c'est autre chose. Faire vivre, faire respirer, prendre le personnage de l'intérieur... qu'on ait l'impression que c'est le personnage lui-même qui décide de son sort, qui décide s'il va marcher, s'il va courir, s'il va s'envoler, mais pas le prendre comme on prend une poupée, une marionnette, comme ça, l'articuler, et puis la faire... C'est un autre truc. Je sais pas, moi... Vous voyez, ce que je trouve grave, ce que je trouve dangereux dans tout ça, c'est que, bon, on fout en l'air l'artisanat. Bon, je sais pas, peut-être qu'un de ces jours, on s'apercevrait qu'il y a une erreur là-dessus. Alors, on va dire, bon, il faut sauver le patrimoine... Alors on va essayer de ressusciter un artisanat. Mais les vrais artisans, ils ont crevé d'ici là. Alors ça sera des faux artisans, comme ceux qu'on voit dans toutes les villes, partout où on ramène des souvenirs du pays ou des trucs comme ça. Ça va être des figurants artisans, vous voyez, qui vont faire des trucs avec des méthodes qui vont être plus ou moins... les artisans, même les artisans qu'on voit dans tous les endroits où on vend des souvenirs et des trucs comme ça, c'est plus du tout le même truc. L'artisan, autrefois, il était capable de s'inventer, de se fabriquer lui-même ses outils. C'était formidable. Regardez au musée des traditions populaires, parce que c'est admirable, ces trucs-là, les outils. Quels sont les gars en ce moment? Maintenant, c'est les outils, ben c'est bien simple. Les outils, c'est fabriqué par les robots maintenant. C'est bien. C'est plus l'homme qui essaie de se prolonger les mains. C'est pas même qui essaie de se prolonger lui-même. Ou alors, c'est on va arriver à ce truc, comme on dit autrefois, on pensait toujours, on dit c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Enfin, ou en tout cas, hein. Maintenant, c'est Dieu, c'est un robot et puis il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, c'est le robot qui va supplanter tout le monde, quoi. Hein.
Le robot, c'est un des thèmes de vos films, ça. On le trouvait déjà dans Gauche et les oiseaux.
Oui.
Et puis on le trouve évidemment à la fin du Roi et l'oiseau. Mmh.
Et le robot. Plutôt aimable dans Gauche et les oiseaux. Il est plutôt aimable, quoi.
Oui, à condition qu'on le maîtrise, quoi. Oui, et finalement, c'est ce que vous venez de développer, comme idée.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer à l'univers humain. Sinon, c'est le robot qui dirige tout.
Voilà, c'est ça. Alors, le robot, moi, j'essaie toujours de dire qu'est-ce qu'on est. Moi, je ne sais pas du tout ce que je suis. Je dis toujours je suis ceci, je suis ça, mais je ne sais pas non plus. Hein. Je crois que c'est bien mal, il faut être vachement fortiche pour dire ce qu'on est exactement. Ce que je crois savoir, ce que je crois deviner tout de même, c'est que le robot peut être, comme la machine dont on parlait tout à l'heure, peut être très intéressante pour certaines choses qu'on ne saura pas faire ou qu'on va s'emmerder à faire à la main avec comme ça et qui vont nous ennuyer à faire et qu'on fera moins bien et d'une façon moins précise et qu'on aura tendance à s'endormir en le faisant. Alors que le robot, il n'a pas sommeil, lui. Il peut le faire pendant qu'on roupille. Oui, alors ça, d'accord, là, c'est un autre truc. Mais... Ce que je trouve inquiétant, vous savez, je peux pas dire, je suis pas aigri, non, c'est pas dans ma nature en plus, mais j'ai des enfants qui auront peut-être un jour, qui en auront d'autres aussi, et tout ça, et je suis pas comme l'autre connard là qui disait après moi le déluge, vous comprenez, je suis anxieux, je suis inquiet en pensant à ce qui attend notre espèce, enfin quand même, qu'est-ce qu'on va leur laisser, déjà en ce moment quand il y a une panne de courant. Le gars qui habite au 18e étage d'une tour, qu'il faut qu'il se tape ça à pied, c'est pas marrant. Quand vous avez un chanteur, s'il y a une panne de courant, s'il y a une panne de micro, qu'est-ce qui va devenir? Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chanteur. Qu'est-ce que c'est? Et puis tous les gosses qui apprennent à compter avec des petites machines et des petits trucs qu'ils ont dans leur poche, ils sont même pas à savoir quand il y a une orange qu'il faut partager en trois, ils savent pas combien il faut en donner de quartier à chacun. Bon... C'est peut-être pessimiste ce que je dis, mais c'est simplement parce que j'ai envie de crier casse-cou devant ces espèces de dire. Alors que je le fais parce que dans cette profession dans laquelle j'ai vécu pendant très longtemps, je sais et je les connais. Il y a plein de jeunes gars, de nouveaux, qui sont venus dans cette profession, qui sont des gens formidables, des gens qui ont du talent, des jeunes qui ont vraiment des tas de qualités, qui ont tout ce qu'il faut. Et que tous ces gars que l'on voit... qui sont englués dans des équipes, dans des trucs dont ils ont du mal à sortir parce que maintenant ils vont prendre l'habitude de gagner leur croûte là-dedans. Alors c'était des gars qui avaient des possibilités, des trucs comme ça. Eh bien, c'est pas possible parce qu'ils ne peuvent vivre que dans des grandes équipes. Et si on entretient les très grandes équipes comme ça, c'est l'usine, c'est le truc Chaplin avec les, on serre les écrous, on fait des trucs. Vous voyez? Alors que ce sont des gars qui méritent mieux que ça. S'ils ne méritaient pas mieux que ça, je m'en foutrais. Je dirais, bon, bah, ils sont des connards, ils ont choisi ça, ils veulent être épatés, ils sont, mais non, je sens bien qu'ils ne sont pas tout à fait à leur aise dans le truc, hein. Voilà.
C'est ça le paradoxe dramatique. C'est que, le cinéma image par image, c'était peut-être le seul lieu où on pouvait, pratiquement sans moyens, sortir quelque chose d'épatant.
Oui, mais oui.
Et maintenant, vous avez l'air de dire que ça n'est plus possible.
Ah, mais je le crains. Être dépendant d'un matériel, de trucs comme ça, et puis puis en plus de ça, c'est dommage que le travail individuel, comme ça, le gars qui a envie de faire un truc, c'est un peu comme un gars qui a envie de faire une toile, s'il est, ça ne leur pend pas encore au nez, les gars, hein. Mais un de ces jours, peut-être qu'on trouvera un autre connard, va trouver une idée, va dire, tiens, c'est ça qu'il faut faire, il va aller proposer ça au président de la République, et puis on va dire, bon, c'est ça qu'il faut soutenir. Et à ce moment-là, il faudra que tout se mette à disposition des nouvelles techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est pas bon, hein? En plus de ça, je peux pas m'empêcher de rapprocher ça de l'art officiel, vous voyez, hein? L'art officiel, ça a toujours donné les pires saloperies, toujours, hein? Alors, quand je vois des choses soutenues par l'État, quel qu'il soit, quand je vois un peintre dont on achète les choses pour les foutre dans les salons à l'Élysée ou n'importe quoi, je me méfie. Quand je vois tout ça, parce que je sais que toujours, ça a donné de la merde. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, je sais que si on s'intéresse, si on dit on veut faire ça... Alors, la culture, bon Dieu, c'est pas seulement... C'est plus noble que ça. Je parle non seulement la chose du jardin, parce que ça, j'en connais un rayon là-dessus, parce que je m'en occupe aussi, mais... La culture, c'est-à-dire la culture spirituelle, j'entends. Si je compare ça avec la culture des croquants, enfin les trucs dans les campagnes, est-ce que ça consiste à faire pousser quelque chose, à développer la vie, à développer les choses, à développer quelque chose, ou à favoriser la vente des engrais ou des grosses machines agricoles? C'est un peu ça en ce moment qu'on fait. En ce moment, on donne du pognon à des gens pour qu'ils se servent des grosses machines agricoles. Dans notre métier, dans le dessin animé, qui apparaît comme un métier libre. Je crie casse-cou, c'est tout.
Et ça ne vous donne pas envie, ça, de retourner à vos pinceaux et à vos crayons à dessin?
Bon, j'ai jamais arrêté ça, j'ai jamais arrêté, parce que je ne peux pas m'en passer. Bon, je passe d'un bout de pellicule, ça me gêne de ne pas tripoter la pellicule, je veux dire, ça, il y a une espèce d'habitude, disons, j'ai un peu horreur de ces expressions, mais une contagion, il y a quelque chose, quoi. Mais en même temps, j'ai toujours dessiné, j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, et puis je m'occupe de mon jardin aussi, puis de temps en temps, je fais un peu de musique, quoi. Et puis ça me laisse un peu de temps, pas assez, mais un peu de temps pour voir mes amis, et ça, c'est bien. Les amis, c'est bien. Vous savez, les amis, c'est bien. J'ai des amis fidèles. J'ai beaucoup de copains. Un petit peu, quelques amis. Quelques amis précieux. Et puis, je me suis aperçu, alors, vraiment, alors, aussi, toujours avec le temps comme ça, que la plus grande fidélité, c'est les filles. Les filles, alors, ça, c'est le plus fidèle dans la vie. C'est formidable. Alors, ça, c'est bien, c'est réconfortant, tout ça. Hein?
Ça sera le mot de la fin.
Oh non, le mot de la fin, il n'y en a jamais, le mot de la fin.
C'était le dernier des 5 entretiens de Jean-Pierre Pagliano avec Paul Grimaud. Mixage Michel Mirou. Réalisation Annie Wojciechowska.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 19, 26 septembre et 3 octobre 1985. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site francecultures.fr à la page des nuits.